Le passage de relais de la flamme olympique passe ce soir par Athènes. Tony Estanguet, le patron des JO de Paris, reprend le flambeau. Cérémonie dans le stade antique de Panathénaïque, dans la capitale grecque, en ce moment. Puis la flamme traversera la Méditerranée, direction Marseille, à bord du Belém, le plus ancien voilier français en activité. Pour son arrivée dans le Vieux-Port, 6000 gendarmes et policiers seront mobilisés le 8 mai, annonce le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Ces 6000 policiers et gendarmes, c'est-à-dire un dispositif qui n'a jamais existé dans la ville de Marseille, avec un périmètre antiterroriste et les 4000 bateaux du Vieux-Port qui seront tous déminés. C'est sûr qu'il y aura, pour ceux qui viendront sur le Vieux-Port, plusieurs jours auparavant jusqu'au jour J, effectivement des palpations, avec contrôle d'identité bien évidemment. Et dans le périmètre, une fois que les choses sont faites, je rappelle que les restaurants resteront ouverts, les hôtels resteront ouverts, la vie continuera évidemment à Marseille. Le principe évidemment des forces de l'ordre, c'est de préparer les choses et d'être le plus discrète possible le jour de l'événement. Il y aura énormément de policiers en civil pour que cet événement soit non seulement sécurisé, mais populaire. Et évidemment, que ce soit à la fois une réjouissance pour Marseille et une réjouissance pour la France d'accueillir cette flamme le 8 mai prochain.
Gérald Darmanin au micro de Mathilde Vinceneux. Dispositif comparable à celui déployé en septembre 2023 pour la visite du pape François à Marseille. Le pape qui participera à la session dédiée à l'intelligence artificielle du G7 en juin en Italie. Une première pour une participation du souverain pontife au sommet du G7. Face à face tendu en ce moment devant Sciences Po Paris, entre quelques dizaines de manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens séparés par des CRS. Le site historique de l'école a été occupé la nuit dernière. Le débat, oui. Le blocage, non, a condamné la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau, qui pointe du doigt la France insoumise, à qui elle attribue un jeu dangereux dans cette mobilisation à des fins électorales. Les étudiants ont reçu aujourd'hui le soutien de plusieurs figures insoumises, dont la militante franco-palestinienne Rima Hassan, candidate pour les élections européennes. Mouvement inspiré en France par celui qui secoue les universités américaines, notamment celle de Columbia à New York, occupée par des étudiants pro-palestiniens. C'est tout simplement l'expression de la démocratie, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, reçu aujourd'hui par le président chinois Xi Jinping à Pékin. Xi Jinping appelle les États-Unis à être des partenaires, pas des rivaux. Le secrétaire d'État américain demande, lui, à la Chine de contribuer à empêcher une escalade au Moyen-Orient. Il est soupçonné d'avoir menacé 180 centres d'information et d'orientation, des mails de menaces d'attentats au nom de l'État islamique. Un adolescent déscolarisé a été interpellé au Mans. Un enfant de 11 ans, terrifié par son père, qui se rend au commissariat seul, de peur de rentrer chez lui et d'y être frappé. La scène se déroule à Nancy, où les policiers ont pris très au sérieux cette affaire de violence intrafamiliale. Les parents ont été placés en garde à vue et seront convoqués ultérieurement par la justice, Mohand Chibani.
Il est 15h30 ce mardi lorsqu'un enfant de 11 ans se présente à l'hôtel de police de Nancy. Il explique aux policiers qu'il venait d'être réprimandé par son enseignant pour bavardage et qu'il avait peur de rentrer à la maison, persuadé qu'il allait recevoir une correction de la part de son père. Les policiers poussent un peu l'interrogatoire et apprennent que l'enfant est régulièrement victime de violences au sein du foyer familial. Ça peut être des coups de ceinturon ou bien de câbles téléphoniques. Les parents sont aussitôt convoqués. Le père, âgé de 48 ans, est placé en garde à vue, tandis que la mère est auditionnée en tant que témoin. Les deux nient les faits, en expliquant tout de même que c'était leur mode d'éducation. La petite sœur, âgée de 7 ans, confirme les violences à l'égard de son frère. Le père a été placé sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'entrer en contact physiquement avec ses enfants. Lui et sa femme seront jugés en octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Nancy.
Et Mohand Chibani, France Bleu Sud-Lorraine. L'association de consommateurs CLCV demande 100 euros de plus sur le chèque énergie destiné à aider les ménages à régler factures d'électricité et de gaz, alors qu'en 2023, le cap du million d'interventions pour factures d'énergie impayées a été dépassé, avec 178 000 coupures d'électricité et près de 87 000 coupures de gaz. Si vous avez un train ce soir entre Paris et l'Est de la France, il sera sûrement en retard. Toute la ligne grande vitesse privée de courant entre la capitale et Strasbourg, Nancy, Metz, Reims. Rupture de caténaire au niveau de Châlons-en-Champagne. Les TGV sont détournés sur la voie classique. Les retards dans les deux sens vont de 20 minutes à 2 heures d'après la SNCF. Côté arrivée à Paris, un train en provenance de Colmar départ à 5h30 de retard tout de même. Tous sur la côte atlantique surtout, touchée par un phénomène de changement démographique, un afflux de résidents depuis le Covid, la période des confinements, la démocratisation du télétravail. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui en ont les moyens, à faire le choix de vivre sur la côte, non sans conséquences d'ailleurs sur les prix de l'immobilier. Bonsoir Claire Servageant.
Bonsoir Thibault.
Dans le téléphone sonne. Ce soir, on parle de cette ruée vers la mer.
Effectivement, une course à la mer, dit la Fondation Jean Jaurès, dans une note consacrée au mouvement de population post-Covid, carte à l'appui. Grand gagnant, vous l'avez dit, le littoral atlantique, mais aussi dans une moindre mesure la côte méditerranéenne. Pas d'attrait particulier en revanche pour les rivages de la Manche. Pour le reste, on note une tendance persistante à la métropolisation. Les zones périurbaines gagnent du terrain autour des grandes villes, y compris autour de Reims ou de Clermont-Ferrand. Même tendance de Lyon à la frontière suisse, mais aussi à la frontière luxembourgeoise. Pour le reste, les départements situés dans le centre et l'est perdent des habitants. Outre l'attrait du littoral, quelles sont les raisons qui poussent les gens à déménager? Est-ce toujours le rêve de la maison avec jardin? Il semble bien que oui. Quel est l'impact des transports? On voit que la desserte ferroviaire et surtout TGV comptent beaucoup. Quid de l'impact du télétravail? Autant de questions dont nous allons parler avec vous tous. N'hésitez pas à nous appeler, surtout si vous avez déménagé ou si vous comptez le faire. 01 45 24 7000, c'est à partir de 18h pour l'ouverture du standard aux appels. À tout à l'heure, Thibault.
À tout à l'heure, Claire.
France Inter, 13h20, Jacques Monin.
Ce samedi, enquête sur l'ultra-droite de plus en plus active. Pendant près de 6 mois, nous avons observé ces militants sur les réseaux sociaux pour comprendre qui ils sont et comment ils s'organisent.
Secret d'info, tous les samedis à 13h20 sur Inter.
C'est si bon.
Charolaise.
Partenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf.
C'est si bon.
Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter et jusqu'ici, tout va bien avec Marie Misset et Marine Bausson. Bonsoir.
Bonsoir Timur Özturk et bon week-end.
Merci.
Car vous êtes en week-end, je crois.
Oui, tout
oui,
à fait.
Tout à fait.
Alors
profitez bien.
C'est gentil.
Le retour de l'actu, c'est à 18h sans Timur du coup. Mais là, il est 17h07 et 30 secondes. Vous êtes sur France Inter et jusqu'ici, tout va bien. Bonjour Marine.
Bonjour Marie, bonjour les auditeurs.
Bonjour les auditrices. Il y a quelques mois, nous recevions Baharé Akrami et Marjane Satrapi dans cette émission pour la BD Femmes, Vie, Liberté sur la révolution en Iran. On avait notamment parlé de Toumaj, ce rappeur iranien qui refusait de se taire et qui vient d'être condamné à mort pour sa participation au mouvement. Une incarnation du courage dont j'avais envie de vous dire au moins quelques mots ce soir. Notre invité est une autre incarnation du courage, multiple champion du monde, détenteur de plusieurs records, cet apnéiste qui a commencé ce sport finalement assez tard, s'est lancé hors de sa zone de confort, qui n'était déjà pas hyper confortable, puisqu'on ne peut pas y respirer, pour s'élancer cette fois sous les glaces et battre de nouveaux records.
Ce soir, on reçoit donc Arthur Guérin-Boëri pour le documentaire Sunny Boy, Under Ice, Beyond Fear.
Sous la glace, au-delà de la peur.
Voilà, et moi je l'ai dit avec mon accent merveilleux, c'est réalisé par Morgane Le Faucheur.
Et puis l'apnée, ça demande d'après moi principalement, une force mentale hors du commun, surtout quand c'est dans une piscine où il suffit juste de sortir la tête de l'eau pour respirer. On a donc eu envie de tirer ce fil et de présenter à notre invité un préparateur mental spécialisé en hypnose.
C'est Jonathan Bellegroux qui sera notre invité passion hypnose.
Quant à Marine, très impressionnée par la performance de Arthur Guérin à Boëri au Canada où il plonge sous la glace en slip, elle vous demande:
qu'avez-vous réalisé d'exceptionnel en slip? Et si c'est pas un exploit, racontez-nous quand même, on veut savoir, vous faites quoi en slip? Pour répondre, vous pouvez nous envoyer un texto ou un message vocal sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. 01 45 24 7000.
Puis Marine, tu as testé ce terrible sentiment.
Oui.
La déception.
C'était horrible.
Et l'objet de cette déception, c'est...
la flamme olympique.
Un homme inspirant qui n'expire pas souvent.
Un autre dont les paroles ne nous laissent pas de glace.
Jusqu'ici, tout va bien. L'émission qui chahute les idées, c'est jusqu'à 18h.
France Inter, Marine Misset et Marine Bausson. Jusqu'ici, tout va bien.
Bonjour Arthur Guérin-Boëri.
Et bonjour.
Vous êtes donc un homme qui a décroché 6 records du monde, 5 titres mondiaux en apnée dynamique. Alors,
7.
8 records.
Je sais pas compter
sur les doigts. Marie a vraiment fait 7.
Alors, c'était 6 records mondiaux avant de remporter les deux derniers.
Exactement.
Sous la glace. On y vient. Alors, l'apnée dynamique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une apnée horizontale et en nageant, qui n'est pas l'apnée verticale. Et il y en a une troisième, je crois, mais qui ne nous intéresse pas ce soir. Voilà.
Okay.
Pour donner une idée aux gens, vous êtes capable de rester la tête sous l'eau dans une piscine municipale à quelques centimètres de la surface de l'eau pendant au moins 6 minutes 22 et 300 mètres. Mais vous avez fini par étouffer dans ces piscines municipales et vous êtes allé chercher d'autres records, d'autres limites. C'était en 2021 et 2022. Vous avez battu deux records de nage sous la glace. C'était en Finlande et au Canada, en combinaison et en simple slip.
Exactement.
Ces exploits ont été filmés et un documentaire très beau avec des images vraiment magnifiques leur est consacré. Ça s'appelle donc Sunny Boy Under Ice Beyond Fear et on peut le retrouver sur toutes les plateformes de VOD. Arthur Guérin, Boëri, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous ressentiez avant justement de vous lancer ces défis sous la glace alors que vous étiez déjà un grand champion du monde à plusieurs reprises?
Je me suis mis sur ce projet de record d'apnée sous la glace parce que justement j'en avais un petit peu marre des disciplines d'apnée conventionnelles dans lesquelles j'étais déjà depuis un certain temps et j'avais atteint tous les objectifs que je m'étais fixé en tant qu'athlète. Notamment j'avais nagé 300 mètres dans un bassin avec ma monopalme qui était l'objectif ultime de ma carrière d'athlète. Une fois que ça s'était achevé, j'ai voulu partir sur autre chose.
Vous avez ressenti un vide ?
Un petit peu, oui, et puis surtout un accomplissement. Voilà, c'est-à-dire que j'avais atteint mes objectifs et j'avais du mal à trouver les raisons de me renouveler une nouvelle fois dans ces disciplines que je maîtrisais.
L'odeur du chlore,
voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la profondeur en mer. Donc c'est pour ça que j'ai déménagé à Nice d'ailleurs. Et parallèlement à ça, je me suis intéressé à l'eau froide. D'abord pour les vertus de l'eau froide, sans forcément penser à l'apnée d'ailleurs. Et puis après, j'ai sous l'influence de mes camarades, je me suis mis comme objectif de faire des records d'apnée sous la glace. Mais à la base, c'était vraiment les bienfaits des bains glacés qui m'intéressaient.
C'était ça le premier truc. Alors, est-ce qu'il faut faire taire ces contradictions quand on est sous l'eau et qu'il faut juste avancer? En tout cas, tant que nous, on est à la surface, on en profite, on explore les vôtres, on vous donne des phrases à compléter, mais il y a un mec.
Arthur Guérin-Boëri, vous n'êtes pas fou, mais...
Je l'étais.
Vous l'étiez ?
Quand j'ai fait ça sous la glace, en tout cas.
Ouais. C'est bien ce qui nous semblait. Parce que vraiment, avec Marie, on était là. Bah pourquoi ?
Je l'ai été un petit peu, en tout cas, sûrement.
C'est cool de respirer, mais...
Mais c'est tellement banal, finalement.
C'est vrai. À la base, vous étiez ingénieur du son, mais...
Alors, à la base, j'étais plutôt passionné de musique et musicien. Et effectivement, j'ai fait l'ESRA à Paris, une école d'ingé son. Mais vite, je me suis rendu compte que c'était difficile d'accorder mon souhait d'être musicien avec le fait d'être ingénieur du son au service de musicien. Et donc, j'ai vite abandonné l'idée d'être ingénieur du son, finalement.
Pour plutôt aller sous l'eau. Vous vous êtes préparé 4 ans pour réaliser votre record d'apnée sous glace, mais...
4 ans, mais ça n'a pas été si facile que ça. Et puis malgré les 4 années...
Ça n'a pas l'air facile, hein, rassurez-vous.
Surtout malgré les 4 années de préparation, et malgré tout ce que j'ai mis en place pour être le plus prêt possible, le jour J, j'avais quand même la trouille, quoi.
Vous êtes 30 à pratiquer l'apnée sous glace dans le monde, mais...
Ah oui, c'est vrai, mais ça reste très challengeant, même s'il y a un très faible volume d'athlètes.
C'est horrible, horrible, horrible d'être dans de l'eau très très froide, mais...
Oui, alors oui, c'est vrai, mais c'est très bon pour la santé. Comme souvent, les choses qui peuvent paraître inconfortables, en fait, sont bonnes pour la santé.
Ça, c'est pas sympa, ça, d'ailleurs. Je sais pas qui a inventé ce concept, mais c'est nul.
Vous avez commencé l'apnée à 26 ans et vous êtes devenu champion du monde d'apnée en seulement 2 ans de pratique, mais...
Mais c'est normal parce que l'apnée est un sport essentiellement basé sur le relâchement, la concentration, le mental. Et donc on peut commencer à n'importe quel âge et progresser, se faire plaisir à n'importe quel âge.
Vous avez donc battu 2 records de nage sous la glace, mais...
Mais je fais plein d'autres choses très intéressantes, en tout cas, que je trouve moi très intéressantes.
Merci Arthur Guérin-Boëri, vous êtes imbattable et peut-être un peu fada d'ailleurs. À un moment dans le documentaire, on entend votre tante dire que vraiment, faut être fada. Juste avant, justement, on vous entend dire c'est horrible, c'est l'horreur quand vous êtes dans de l'eau très froide. La question qu'on se pose donc quand on regarde Sunny Boy, ce documentaire où vous nagez sous la glace, au risque de perdre la vie, c'est invariablement mais pourquoi ?
et je doute qu'on va répondre vraiment à cette question. En revanche, ce qui vous anime et ce que vous défendez, c'est l'acceptation du risque. On en reparle dans quelques minutes. Et puis le deuxième exploit que vous avez accompli au Canada, vous l'avez fait en slip, on le saura. Toujours plus loin, on a donc décidé de vous demander à vous qui nous écoutez.
Qu'avez-vous réalisé d'exceptionnel en slip? Enfin, pas exceptionnel dans le sens de normalement, normalement je le fais pas en slip, et donc c'est pas forcément un exploit, mais qu'est-ce que vous faites en slip qui est bizarre? Pas par exemple Marie.
Alors, je me dévoile de plus en plus dans cette émission, je
oui,
pense
ça
qu'on
nous
va
intéresse.
Arriver trop loin à un moment. Non, je suis déjà restée coincée en dehors d'une chambre d'auberge de jeunesse en slip. Alors, rester enfermée dehors sans clé, vraiment, je vais pas vous mentir, ça m'est beaucoup, beaucoup, beaucoup arrivé dans la vie, environ 200 fois. Mais en slip, c'était exceptionnel, effectivement.
Et tu n'en dis pas
non,
plus.
Non, c'est pas nécessaire.
C'est dommage. Mais vous, qu'avez-vous réalisé d'exceptionnel ou d'inhabituel en slip? Continuez de nous écrire sur WhatsApp au 01 45 24 7000 ou l'Instagram de l'émission, jusqu'ici tout va bien, _ France Inter.
Et en attendant de vous lire et d'entendre vos exploits à vous en slip, en caleçon, en maillot de bain, on est large dans notre acceptation du slip. On écoute Josman sur France Inter qui, comme vous, Arthur Guérin Boëri, nous emmène ailleurs.
Wow. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. En ce moment, je suis un peu ailleurs. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. Je sais pas, j'ai la haine des keufs et de l'état. Je suis comme le guetteur, je le crie sur tous les toits. J'ai les deux majeurs en l'air. Je suis un peu à l'étroit quand je leur mets les doigts. J'ai kiffé la mise de sa copine. Venez, on le fait tous les trois. Je prends du repos bien mérité. Son âge à cousi, massage sur les doigts. J'ai fait des bons, des mauvais choix. Mais j'ai toujours été droit. J'ai pas grandi dans le velours ni la soie. Donc j'ai rêvé du trône, il fallait que je m'y assoie. Au moins une fois, ça va de soi. On a fait du sale, il faut qu'on se nettoie. Combien de fois je me suis niqué la voix, les poumons et le foie. Je m'arrache à LA dans les hauteurs. La piscine déborde sur les bâtiments. J'ai levé les yeux vers les étoiles, car la terre n'est plus rien de fascinant. J'ai beaucoup péché facilement, je me repens, je me méfie du châtiment. Avec moi c'est tout ou rien, 0 ou 100%, j'aime pas les quasiment. En ce moment je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux. L'avenir ne s'annonce pas radieux. Les yeux vers les cieux, je m'en remets à Dieu. J'essaie de faire de mon mieux. Ah ouais, il veut me faire des histoires, il veut me toiser le frère. D'une manière ou d'une autre, je reviendrai te faire, on va croiser le fer. Je sors de chez Louis Vuitton, la petite voix dans ma tête me dit c'est un peu cher. La deuxième lui dit on en a fait du chemin, moi j'en suis pas peu fier. J'ai pas toujours été honnête, mais je suis toujours franc du collier. Puis l'époque des petits écoliers, je veux l'argent pétrolier, des patrons d'étoliers. Mais pour y arriver, beaucoup d'équations et de points à relier. Je me la zaza, c'est mon dada. T'es mon pull, c'est un Prada. J'ai déjà kiffé Ronata. Je sais pas qui va me laisser tomber. Je sais pas non plus qui va m'arrêter. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Ça inquiète celle qui m'a allaité. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux. L'avenir ne s'annonce pas radieux. Les yeux vers les cieux, je m'en remets à Dieu. J'essaie de faire de mon mieux. En ce moment, je suis un peu ailleurs.
C'était Josman avec Ailleurs sur France Inter. Arthur Guérin Boëri, votre dada dans la vie, c'est de ne pas respirer. Pendant des années, vous l'avez fait dans des piscines municipales. Et depuis à peu près 5 ans, peut-être plus, vous vous êtes lancé de nouveaux défis, ne pas respirer, mais sous la glace cette fois. Et vous avez déjà battu 2 records du monde qui viennent donc s'ajouter à vos 6, si j'ai bien compté, records mondiaux en apnée dynamique et 3 précédents records du monde, enfin championnat du monde. Oh, ça y est, je me suis mélangée.
C'est vendredi aussi, c'est compliqué.
Alors, je peux détailler.
Ce qui est frappant dans le documentaire Sunny Boy, où on vous voit accomplir ses exploits dans des environnements assez exceptionnels, en Finlande, au Canada, où les images sont vraiment sublimes, c'est que vous aimez pas trop ça, Arthur Guérin Boëri. Vous arrêtez pas de dire que c'est horrible, on vous voit tremblotant dans des couvertures de survie. Il est où le plaisir?
Alors, il est où le plaisir? C'est une bonne question. En réalité, il faut distinguer dans l'apnée comme dans la nage hivernale d'ailleurs, la natation en eau glacée, comme dans n'importe quel sport, l'alpinisme, le footing, les marathons, peu importe. Il faut distinguer le niveau loisir, récréatif, et le niveau extrême, record du monde, etc. Il y a toujours une énorme différence entre le niveau loisir et le niveau extrême. Et si le niveau loisir, finalement, laisse la place au plaisir et au ludique, etc.
D'ailleurs,
dans la pratique,
ça explose l'apnée en France.
L'apnée explose en France, comme au niveau de plein d'autres sports d'ailleurs. Autant voilà, il y a une notion de plaisir évidente dans le loisir, autant sur de la compétition, il y a une notion d'engagement et de sortie de sa zone de confort qui prend le dessus sur tout. Et c'est le cas notamment pour l'apnée, notamment pour la nage en eau glacée, etc. Si un bain en eau glacée de 2 minutes, c'est très agréable et au début on se met dedans, c'est un peu inconfortable, mais finalement ça passe. Nager 15-20 minutes dans une eau glacée, c'est beaucoup plus difficile.
Ça devient compliqué. On voit quand même nager dans le canal de l'Ourcq et on vous dit bravo pour ça. C'est vraiment une pub pour les Jeux Olympiques.
Le canal est propre.
Le canal
Attention.
Est donc propre, voilà.
Vous pas comme la Seine.
Moi, j'ai quand même un élément peut-être de réponse à cette question du plaisir. Vous évoquez le siksu. C'est un mot finlandais intraduisible. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Même si c'est intraduisible.
Sortir de sa zone de confort, c'est difficile. Justement, c'est difficile à traduire. Donc, en fait, ça va être difficile.
Ne laissez pas comme
c'est
ça.
Vivre selon ses passions, vivre d'abnégation, vivre de transcendance, vivre pour ce qui nous passionne.
Oui, dites même que vous avez ressenti une joie immense, quoi, un truc que vous aviez jamais ressenti.
Oui, alors c'est toujours pareil. C'est exactement ce que j'expliquais. En fait, dans le sport à haut niveau, comme ça, quand on fait des choses un petit peu extrême. Finalement, le plaisir n'est pas sur le moment, comme ça peut être le cas à un niveau loisir, mais arrive après, une fois que c'est terminé. Et c'est exactement ça, là, c'est ce type de record en apnée, c'est quand on a terminé qu'on ressent la satisfaction et le plaisir et la joie. Mais finalement, tout comme quand on a fini un marathon, ou tout comme on a atteint le sommet de l'Everest, finalement, pendant, c'est très très dur, et on souffre. Et une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée ou qu'on a atteint le sommet, c'est fantastique. C'est un peu ça.
Une joie immense, mais éphémère, ce que vous dites aussi dans le documentaire. Parce qu'il va falloir aller vers d'autres choses, juste pas très longtemps après.
Oui,
mais
exactement.
Pas si
oui, finalement, la joie est assez éphémère. Moi, finalement, c'est atteindre mes objectifs qui m'importent. C'est pas forcément faire un record ou être le meilleur du monde. Ça, c'est jamais un truc qui m'a trop branché, d'ailleurs.
Parce que vous êtes le meilleur du monde, du coup.
Oui, voilà. En l'occurrence, c'est la cerise sur le gâteau. Non, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que je le prends et c'est très bien et je crache pas dessus, bien au contraire. Mais c'était surtout atteindre mes objectifs, moi, qui a toujours été important. Et donc, une fois que c'est atteint, finalement, what's next? Voilà, c'est un peu ça.
Mais en vrai, c'est quoi que vous aimez pas dans le fait de respirer? Parce que moi, j'adore personnellement.
Non. Alors, j'adore respirer. Et finalement, le fait de retenir sa respiration, ça apprend encore plus le plaisir de respirer. Ça fait prendre conscience encore plus du plaisir qu'on a à respirer, finalement. Mais en fait, j'aime beaucoup respirer.
C'est vraiment une phrase incroyable. J'espère qu'on va la mettre en titre.
En fait, ce qui est intéressant dans le fait de ne pas respirer, c'est que d'abord, d'ailleurs, ça nous apprend à bien respirer, le fait d'apprendre à ne pas respirer. Et puis, on découvre aussi, finalement, justement, cette concentration que ça force, le travail sur soi. Et aussi, ça apprend à sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est un véritable boost de confiance en soi, de conscience de soi. Et ça fait beaucoup de bien, finalement.
Ce que vous défendez, notamment dans une conférence TED que vous avez donnée, c'est l'acceptation du risque. En l'occurrence, il y avait un vrai risque dans les deux records que vous avez tentés. Mm-hmm. Un risque pour votre santé. Vous êtes le cobaye de votre propre expérience. Mm-hmm. Vous n'êtes pas du tout sûr, tout physiquement, l'exploit est faisable. Vous avez mis du temps à convaincre un cardiologue de vous suivre sur l'aventure. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui ont refusé en disant ça va pas du tout.
Non, j'ai eu du mal effectivement à trouver, mais en fait j'ai constitué toute mon équipe tout seul, que ce soit l'équipe de tournage, j'ai cherché pendant longtemps quelqu'un qui souhaite m'accompagner pour faire ce film. Finalement, Almofilm a sauté sur l'occasion et je les en remercie. J'ai trouvé une manager, j'ai trouvé un kiné, j'ai trouvé un cardiologue, justement. Bon, j'ai vraiment monté mon équipe comme un grand. Et c'est vrai que ce cardiologue, François Raoult, que je salue, qui travaille pour l'INSEP à Paris.
Vous faites une blague sur Didier Raoult dans la conférence.
Ah oui,
peut-être
oui,
je l'ai fait pour vous,
oui,
au cas où vous
moi, c'est Raoult.
Pas.
Oui, voilà, c'est pas le même. C'est pas Raoult. Lui, en tout cas, est cardiologue à l'INSEP et a tout de suite accepté. Et c'est vrai qu'on a Effectivement, même si on a compris certaines choses avec François Raoult, on était quand même loin de pouvoir tirer des conclusions sur qu'est-ce qui se passe vraiment, parce que c'est quand même très niché, j'étais seul pendant quelques mois, donc on ne peut pas tirer des conclusions d'une étude scientifique médicale. Il nous faudrait 10 000 athlètes pendant 10 ans voilà, pour avoir vraiment des tendances qui se dégagent. Et finalement, on ne connaissait pas vraiment les risques, on ne savait pas comment vraiment prévenir, ni comment intervenir. Donc c'était quand même très expérimental au niveau médical ce que je faisais. Et donc c'est pour ça que malgré tout ce que j'ai mis en place, j'avais quand même la trouille relative aux risques que je prenais en faisant ça. Et ce qui me faisait particulièrement peur, c'était finalement les réactions physiologiques extrêmes de l'apnée, couplées aux réactions physiologiques extrêmes de l'eau glacée.
Du froid.
Chacune indépendamment me font pas trop peur. L'apnée, je sais ce que ça fait. L'eau glaciale, je sais ce que ça fait aussi. Mais les deux couplées, c'était ça qui m'inquiétait. Et ça m'a inquiété jusqu'au jour J, finalement, sur la glace, où il avait vraiment fallu que je fasse un travail sur le risque, sur la prise de risque, là, pour y aller, malgré ce risque qui subsistait. Et à un moment donné, il a fallu que je lâche prise.
Et vous avez accepté le risque, ouais.
Exactement. J'ai choisi d'accepter que peut-être ça puisse mal se passer sous la glace. Et là, à ce moment-là, je m'en remets vraiment à ma destinée, quoi. Je crois en ma bonne étoile et je me dis, bon, on verra bien et j'ai confiance.
C'est comment ça se passe d'un coup, tout d'un coup, d'y aller, c'est bon, j'accepte le risque, c'est
exactement.
Parti.
Exactement. 20 secondes avant de partir, je suis dans la glace, il y a le compte à rebours du juge et là, à un moment donné, je lâche prise. Voilà, et je me dis, ok. Là, j'y suis, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Il y a ce track qui est devant moi, qui me montre le chemin, cette corde qui est tendue, cette ligne de vie. On appelle ça une ligne de vie, d'ailleurs, c'est marrant. Et là, à un moment donné, je m'en remets, effectivement, à quelque chose qui me transcende un peu, qui me dépasse. Que... Pourtant, je suis très terre-à-terre comme garçon, hein, vraiment. Mais là, si je fais pas ça, je peux pas partir, quoi. C'est impossible.
Mais j'ai l'impression qu'on se pose pas vraiment, d'ailleurs, la question du pourquoi, à ce moment-là, de la prise de risque, de pourquoi je le fais. Que c'est assez décorrélé, finalement.
Alors, le pourquoi, finalement, je l'ai mûri en amont.
C'est ça.
Pendant les années de préparation. Le pourquoi, c'est voir jusqu'où je peux adapter mon corps et mon mental avec une progression raisonnée, lente. C'est aussi se fixer un objectif finalement dans quelque chose qui symboliquement est quand même assez impressionnant. Hein, nager sous la glace en slip de bain, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans des pranks sur TikTok ou sur Instagram. Mais finalement, le faire sérieusement avec un juge, une fédération, un contrôle antidopage, un vrai track, faire ça dans les règles de l'art, finalement, on ne voit pas beaucoup. Donc je me suis dit, allez, voilà, tentons-le. Et l'idée à la base, c'était vraiment de voir voilà, où je peux amener mon corps et mon mental avec une progression comme ça, vraiment lente, adaptée, raisonnée.
Pendant
c'était
4-5
pas
ans.
Du tout un truc
En tout cas, le moment où on se dit on y va, c'est pas j'y vais pour ça, j'y vais tout court. Enfin, en tout cas, c'est l'impression vraiment qu'on a
exactement.
En vous regardant.
Sur le moment, c'est j'y vais tout court. Voilà, j'accepte le risque et j'y vais.
Bon, alors quand même, malgré tout, vous avez réalisé un record d'apnée sous glace avec combi, puis sans combi, mais en maillot. C'est quoi la suite? Le record d'apnée sans slip?
Ça se tente. Non, la suite, c'est surtout de transmettre maintenant, moi. C'est ma carrière d'athlète à très haut niveau, pour l'instant en tout cas, est en stand-by. J'y reviendrai peut-être
un jour. Moi
aussi,
hein, je vous rassure, la mienne
c'est
aussi. Ouais.
Ah, faut s'y remettre. Non, peut-être que j'y reviendrai. Pour l'instant, moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre, d'être productif et créatif, parce que finalement, je l'ai pas beaucoup été pendant ma carrière d'athlète, et ça, c'est un truc sur lequel je suis de plus en plus critique. Hein. C'est vraiment, pour moi, la condition d'athlète, c'est très bien, ça fait rêver les gens, on transmet des valeurs très intéressantes, le geste technique est très beau, mais finalement, qu'est-ce qu'on produit concrètement? Qu'est-ce que je produis en tant qu'athlète? Eh ben, à part du rêve, pas grand-chose.
Alors, c'est pas déjà mal beaucoup, quand même, déjà.
Mais,
quand même.
Moi, ça ne me suffit pas.
D'accord.
Et j'ai besoin d'être créatif et productif. Et donc, j'opère déjà cette transition, cette reconversion depuis 2016, hein, en parallèle de mon entraînement pour aller sous la glace. J'avais déjà commencé cette activité de conférencier, de producteur de contenu pour les sponsors qui m'accompagnent, séries documentaires, etc. C'est vraiment un truc que je mûris déjà depuis des années. Et passer sur des projets qui s'éloignent plus ou moins même parfois de l'apnée, qui parfois même n'ont rien à voir avec l'apnée, qui peuvent être des projets totalement journalistiques. Là, j'ai envie de partir sur je sais pas si vous vous souvenez de cette émission qui s'appelait Paris Dernière.
Oui, tout à fait, c'était un monsieur qui suivait des gens en soirée.
Exactement.
C'est assez loin de l'apnée, c'est comme ça.
Partir sur un Paris Dernière pour les réseaux sociaux qui s'appelait Vol de Nuit, où je vais aller à la rencontre de mon réseau culturel parisien dans des endroits
originaux. Ah oui, alors vraiment, c'est inattendu.
Voilà, donc, mais c'est pour ça que j'ai envie vraiment d'être créatif. Voilà, c'est ça aujourd'hui le maître mot, et parfois sur des trucs qui s'éloignent complètement de l'apnée. Ouais.
En tout cas, Marine, c'était une habile transition pour parler de slip
bien
que
sûr.
Tu as tenté.
C'est ce que j'ai
et
tenté.
Et ça nous emmène tout droit à la question qu'on vous pose à vous qui nous écoutez. Qu'avez-vous réalisé d'exceptionnel en slip? Alors, il y a plein d'artistes en slip qui nous écrivent. Hein, mais juste avant, on a reçu un message vocal. J'aimerais qu'on l'entende parce que ça parle d'apnée.
Bonjour les amis. J'ai fait beaucoup de pêche en apnée et je me suis défoncé les tympans. Depuis, je ne fais plus de la différence entre Calogero et Motorhead. Donc, prenez soin de vous. Bisous.
Merci beaucoup. Voilà, et vous, vous écoutez de la musique, ça va, tout se passe bien. Vous a, ça vous a pas fait mal aux oreilles, quoi.
Non, il faut faire attention à ces tympans quand on descend en apnée, effectivement.
Mais donc voilà, donc des artistes en slip. Alors il y a pas mal, on a pas mal de messages par rapport à la neige. On a Marion, par exemple, qui nous a raconté qu'elle avait fait du stop sur une piste de ski. Voilà, une dameuse s'est arrêtée, une soirée un petit peu alcoolisée, bah, j'imagine, pour être en slip sur une piste de ski. On a reçu un autre message de Pépito qui nous dit: salut Marine, je suis un garçon et un jour j'ai fait une descente en snow. Board en slip avec des potes à moi. Les monitrices de l'ESF ont beaucoup rigolé et ont demandé à leurs collègues de faire la même. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Dans un autre genre, on a Nini qui nous dit: salut les mamas, je suis conductrice de poids lourd et aussi motarde. En plein mois d'août, je me suis prise une grosse averse, pantalon trempé sur la route pour aller bosser. Du coup, arrivée dans mon camion, j'ai enlevé ce pantalon et j'ai pris la route en slip. Voilà. J'avais une peur bleue de me faire arrêter ou qu'un collègue
moi,
me voit comme
veux,
ça.
Je veux que les personnes qui interviennent sur BFM ou des choses comme ça en visio et qui le font en slip, car on sait que vous êtes là, nous écrivez.
Et bah bien sûr, faites-le vraiment. Une fois, on a un message de Clémence qui nous dit: une fois très fatiguée, j'ai repassé un vêtement en culotte, assise, en mettant ma mini table à repasser sur mes cuisses et je me suis fait une énorme brûlure sous forme des croisillons du dessous de ma table à repasser. Voilà, c'est pas une très bonne idée, le repassage en culotte, on adore. Et puis je vais terminer avec Isa qui nous dit: salut les mamas, pour moi une des hontes de ma vie, la première fois que je suis allée chez un podologue à qui je pensais montrer que mes pieds, m'a fait me déshabiller alors que je pensais porter une vieille culotte trouée, genre vraiment trop trouée. La honte en slip, bonne émission, merci.
Des voilà. Hontes en slip, il y en a beaucoup.
Il y en a énormément. Donc en tout cas, continuez de nous écrire: qu'avez-vous réalisé d'exceptionnel en slip? 01 45 24 7000. Ça c'est le c'est WhatsApp, hein. Envoyez-nous des messages vocaux. Et puis l'Instagram de l'émission, jusqu'ici tout va bien, _ France Inter.
Jusqu'ici tout va bien, mais c'est bientôt l'heure de tirer le fil. Arthur Guérin-Boëri, avant de plonger sous la glace, on imagine la préparation mentale incroyable qu'il faut pour ne pas lâcher, pour aller au bout. Vous dites que très vite, vous avez envie de respirer et qu'après tout, tout n'est que lutte. On a eu envie de vous présenter un hypnotiseur qui fait justement de la préparation mentale.
Ça sera Passion Hypnose sur France Inter avec Jonathan Bellegroux.
Et avant d'essayer de tous vous hypnotiser à distance, on écoute un morceau que je ne sais plus ce qui c'est parce que j'ai pas ma feuille. Ça va
Nick
bien.
Cave.
C'est Nick Cave sur France Inter avec Wild God.
Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down?
started searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.
C'était Nick Cave avec Wild God à l'instant sur France Inter.
Jusqu'ici, tout va bien. Marie Misset et Marine Baousson sur France Inter.
Avec l'apnéiste Arthur Guérin-Boëri ce soir, champion du monde plein de fois et qui bat des records sous la glace. Arthur, vous dites que pendant votre préparation, juste avant d'aller sous la glace, vous atteignez un état presque hypnotique qui vous permet d'affronter le risque, le froid. On a donc eu envie de vous présenter un hypnotiseur spécialisé dans la préparation mentale pour voir si ça ressemble à ce que vous faites vous-même.
C'est Passion Hypnose sur France Inter.
Allez, on se réveille, on se remue. C'est pas le moment de flancher, les gars. C'est un bel effort qu'on a fait jusqu'ici, alors on n'abandonne pas.
Il a raison. Il est hors de question de craquer maintenant, vous m'entendez? Faut absolument garder le mental. On est très fort. On a trop à perdre, faut rester calme. Surtout pas de panique.
Ça a l'air super comme préparation mentale. Bonjour Jonathan Bell-Legroux.
Bonjour.
Vous êtes donc préparateur mental, précurseur de la pratique de l'hypnose dans le sport en France. Vous suivez quelques sportifs de haut niveau français, notamment des grimpeurs sur glace, des sportifs qui font du judo, de la natation, du squash. Il y a de quoi faire. L'hypnose, c'est pas quelque chose sur lequel vous aviez des préjugés, je crois, parce que vous aviez notamment grandi avec une tante anesthésiste qui pratiquait l'hypnose à l'hôpital, avec de véritables résultats, comme on sait. Alors j'ai vu que votre performance TEDx s'appelle Profession détrompeur de cerveau. C'est quoi, Jonathan Bell-Legroux, un détrompeur de cerveau?
Eh ben, bravo pour les infos.
Écoutez, vraiment,
c'est bien préparé.
Merci.
Détrompeur de cerveau, c'est en fait souvent on associe l'hypnose au fait de tromper le cerveau et de faire croire à quelque chose qui n'est pas réel. Et en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je pense que notre mental est très fort pour nous faire croire à des choses qui ne sont pas réelles. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'anxiété, il a un avenir qui est rempli de scénarios catastrophes qui verront pourtant jamais le jour. Donc, mais qui vont faire en sorte que la personne va peut-être pas oser se lancer dans un sport, dans une performance, ou pour faire sauter une barrière comme tu l'as fait. Donc finalement, mon métier, c'est pas tant de dire maintenant tu es fort, maintenant tu es fort, maintenant tu es fort, c'est peut-être de détromper le cerveau, en fait, qui ferait croire à la personne que ben, cette performance n'est pas accessible, que cette compétition n'est pas
pour elle. Donc vous dites plutôt non, tu n'es pas nul, non, tu n'es pas nul, non, tu n'es pas nul.
Alors non, parce que justement, la négation, on sait que ça ne fonctionne pas tout, pas très très bien. Enfin, si je dis ne pensez pas à un éléphant rose, ça c'est le grand classique.
On va risquer de penser à un éléphant rose.
Du coup, stresse pas hein, pour tes examens et n'aie pas peur pour l'opération. Et puis, pense pas au froid hein, avant d'aller sous la glace. Ça marche pas très bien.
Arthur Guérin-Boëri, vous parlez d'un état quasi hypnotique avant d'aller sous la glace. Vous faites exprès? Vous pratiquez l'opto-hypnose sans, ou pas? Ou c'est comme ça, ça vous arrive?
Finalement, sans le vouloir, je pense que oui, un petit peu, parce que les exercices qu'on pratique, ou en tout cas que je pratique, la méthode que j'ai mis au point, en tout cas, pour me préparer avant de partir, me met dans un état, dans un état de concentration très avancé, je dirais. Effectivement, c'est il y a quelque chose d'un peu hypnotique. Je vois plus trop ce qui se passe autour, j'entends plus trop ce qui se passe autour. Je suis focalisé sur mon objectif. Et voilà. Et je crois que certains sportifs appellent ça le flow. On est dans cet état de concentration comme ça où tout devient presque automatique. Et je pense que ça rejoint peut-être les états hypnotiques ou en tout cas méditatifs. À mon avis, il y a un peu de ça dedans. Ouais, c'est des exercices de respiration qui, pendant 2 heures, finalement, au bout d'un moment, on finit par être dans cet état-là, quoi.
C'est quoi la spécificité des athlètes, Jonathan Bell-Legrou? Il y a une différence entre hypnotiser une personne lambda, comme moi, on peut essayer, là.
T'es si pas lambda, Marie.
ou une athlète.
Oui, il y a une différence, c'est que j'en vois deux. Un, beaucoup d'athlètes connaissent l'état d'hypnose sans le savoir, tout simplement parce que ils connaissent cet état d'hyper-focalisation sur une tâche, sur un moment, un instant précis. Donc, ils ont cette habileté-là. Alors après, on va parler de l'état d'hypnose sous forme d'état modifié de la conscience, et c'est vrai, comme tu le dis, la respiration va créer cet état-là, mais il y aurait aussi d'autres portes d'entrée, comme la méditation, la pleine conscience, l'hypnose. En fait, à partir du moment où on sort de notre habitude et qu'on se concentre sur quelque chose de nouveau, un peu d'extraordinaire, genre plonger sous la glace, on est dans l'état d'hypnose. Et un athlète, donc, va rencontrer ça beaucoup plus de fois qu'une personne lambda, si tu n'es pas lambda. Ensuite, la deuxième chose, c'est que souvent, lorsqu'on travaille, il va falloir travailler dans un moment très, très bref, un moment de compétition. Mmh. Moi, généralement, des fois, il m'arrive, tu t'évoquais le squash, des fois, j'ai 2 minutes.
Pour hypnotiser quelqu'un, on
se rapprochera plutôt des techniques d'hypnose type d'urgence qu'on va trouver à l'hôpital et tout. Mais voilà, c'est un peu où avec une personne qui viendrait en cabinet et tout, on prendra un petit peu plus de temps. Mais globalement, tout le monde est hypnotisable. Et puis, il faut juste s'adapter et trouver la bonne technique pour la personne. Rentrer.
Mais alors justement, vous parliez de l'hypnose dans les blocs opératoires, tout ça. Enfin, voilà, l'hypnose médicale, comme vous disiez. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons d'hypnotiser. Moi, j'ai un ami qui est hypnotiseur de spectacle. Lui, il a arrêté parce qu'il trouvait que c'était hyper violent, la façon dont on pouvait hypnotiser des gens très rapidement, les sortir de l'hypnose en les accompagnant aussi finalement très peu. Et il m'a même raconté qu'une fois, à la fin d'un spectacle, une personne est venue la voir parce qu'il elle avait les doigts collés et elle n'arrivait pas à les décoller. C'est possible, ça, vraiment, de rester bloqué après une hypnose?
Oui, mais comme c'est possible de rester bloqué sur une suggestion qu'on a entendue tout petit, sans hypnose, à l'école, et qui nous dit « toi, tu seras nul en maths », et ça va nous conditionner toute notre vie. Maintenant, c'est plus le rapport à la suggestion. Parce que l'hypnose, c'est faire passer des suggestions et faire en sorte que le cerveau commence à y croire. Si je dis à la personne « les doigts sont collés » et qu'il y croit, les doigts vont être collés, maintenant, il y a un moment où le facteur critique va commencer à reprendre le dessus. Et il y a plein d'études qui ont été testées là-dessus. Est-ce qu'on peut rester bloqué sous hypnose? Non. Est-ce qu'on peut bloquer les doigts indéfiniment? Non. À un moment donné, ça va se débloquer. Par contre, ça sera hyper inconfortable et moi, je suis tout à fait contre parce que l'objectif, c'est quand même que la personne, elle soit confortable, que ce soit que l'expérience soit un jeu, que ce soit consenti, c'est tout ce rapport-là qu'il faut créer avec un athlète, dans mon travail avec un athlète, mais en général avec l'hypnose. Et parfois, ceux qui font de l'hypnose de spectacle n'ont pas ce temps-là, et en plus, les spectateurs ne sont pas dans l'environnement pour faire ça. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils viennent se divertir. Alors que moi, quand ils viennent me voir, ils viennent s'entraîner. Ça n'a rien à voir.
Et est-ce que l'auto-hypnose, c'est quelque chose que vous utilisez l'un comme l'autre au quotidien pour faire des petites tâches, comme venir ici à vélo en moins de 45 minutes, voilà. Jonathan?
Oui, déjà parce que je pense que moi, ça fait quand même pas mal partie de ma vie. J'ai écrit 2 bouquins sur l'auto-hypnose, donc je pense que je les ai quand même bien intégrées, certaines techniques. Là, par exemple, j'ai une petite de 6 mois à la maison. C'est très pratique pour arriver à s'endormir rapidement et plus facilement tamponner la dette de sommeil.
Bonne idée pour les jeunes parents.
Voilà, pour les jeunes parents, c'est pas mal.
Truc avant de se quitter, un mini exercice d'auto-hypnose.
Ouais, moi j'en ai un à vous recommander. Enfin, j'en aurais plein, mais si on prend cette idée de la suggestion, on se fait plein de suggestions toute la journée, genre « ouais, je suis fatigué, ouais, j'en peux plus » et tout et tout. Et ces suggestions, en fait, à la base, c'est des pensées. Et si on commence à croire à nos pensées, à ce moment-là, elles viennent nous suggérer un état. Si je me dis « je suis fatigué » pendant longtemps, je vais commencer à ressentir de la fatigue. Et donc, à la base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espacer nos pensées. Donc, je proposerai par exemple aux auditeurs, puis à vous aussi, si vous avez envie, c'est d'imaginer que nos pensées, elles vont et elles viennent en permanence. Donc, chaque pensée qui arrive, à un moment donné, elle repart. Et il y a un mouvement dans nos pensées, et il y a un moment où, quand elle repart, l'autre n'est pas encore arrivé. Et l'idée, c'est d'espacer ce temps-là.
Cet espace entre deux
pensées. Entre chaque pensée, pour ensuite placer la pensée qu'on aurait, qu'on aimerait bien pouvoir se donner. Genre, hé, hey, ça va bien aller.
Ok, merci Jonathan
Bellegroux. Et tout va bien d'ailleurs.
Vous avez presque réussi à nous hypnotiser. Pour creuser le sujet, on peut vous lire et dans l'incontournable de l'auto-hypnose, c'est publié chez Amphora en 2022. Arthur Guérin-Boëry, vous venez nous parler entre autres du documentaire Sunny Boy Under Ice Beyond Fear réalisé par Morgan Le Faucheur. On vous voit donc battre deux records de nage sous la glace. Mon obsession, Arthur, c'est que vous nous fassiez plonger avec vous, que vous nous emmeniez dans les deux heures qui précèdent ce moment où vous sautez.
Et moi, à 17h53, je vous raconterai un truc incroyable sur la flamme olympique. Je vous le dis, j'ai été déçue et choquée, les frérots.
Et d'ici là, on vous dédicace ce morceau, Arthur Guérin-Boëry, ou plutôt on le dédicace à toutes les respirations que vous n'avez pas prises dans votre vie, à toutes celles que vous avez retenues par la seule force de votre volonté, à toutes celles que vous retiendrez encore. On écoute Police, Every Breath You Take sur France Inter. Police, Every Breath You Take, à l'instant dans Jusqu'ici tout va bien, et Marine qui racontait une petite histoire à notre
ami.
Voilà, c'est ça que vous entendiez. Un petit clin d'œil, cette chanson à vous, l'apnéiste Arthur Guérin-Boëry. Vous avez battu un record de nage sous la glace au Canada. Vous l'avez battu en slip. Avant, vous mettiez une combinaison. Ça nous a donné envie de vous demander, à vous qui nous écoutez,
qu'avez-vous réalisé d'exceptionnel en slip? Alors vraiment, il y a énormément d'anecdotes qui arrivent. On parle d'étiquettes de slip qui n'étaient pas changées chez l'hosté météo, enfin bref, plein de choses vraiment chouettes. Mais je vais m'arrêter juste sur un message qui est un message de Flo qui nous dit: je suis d'un petit coin reculé du bocage normand et depuis plus de 10 ans, avec les copines et les copains du coin, on organise la fête du slip tous les 15 août. Ça démarre le vendredi soir par une randonnée en slip sur les chemins creux du bocage, puis la fête se poursuit dans un champ autour d'une piscine en maillot en ballot de paille, pardon, feu de camp et scène ouverte aux copains musiciens, tous en slip. Bisous Florent, merci pour ce témoignage et merci pour tous les messages que
surtout
vous nous
envoyez. Surtout bravo de faire ça dans le bocage normand, on ne sait jamais ce qui peut arriver un 15 août en termes de température, bravo.
C'est vrai, c'est très bien. Merci pour tous vos messages.
Arthur, c'est l'heure de vous imposer mon obsession. Cette obsession, c'est la mise en condition de 2 heures avant la plongée sous la glace. On veut être prêt à plonger avec vous, Arthur. On veut faire une expérience de pensée avec vous. On va donc plonger dans 2 heures, là. Vous dites que la peur imprègne chacune de vos cellules à ce moment-là. La peur est partout.
Oui, alors l'appréhension, le doute, en tout cas, est là. Oui, bien sûr, ouais, avant de plonger. Ouais.
On commence par quoi ? Qu'est-ce qu'on fait en premier ?
Quand j'arrive sur la glace, la première chose que je fais... Quand j'arrive, c'est que je vais marcher le long du track, on appelle ça comme ça.
Sans chaussures.
Là, je suis avec, là. Là, on n'est pas encore dans l'inconfort. Pour l'instant, je suis bien habillé avec mes chaussures et je marche le long du track. Donc, c'est cette ligne qui a été définie sur la glace, en dessous de laquelle je vais nager. J'ai une issue de secours tous les 20 mètres et dessous, j'ai des câbles qui sont tendus. Il y a une ligne de vie à laquelle je suis accroché. Il y a un câble guide qui me montre le chemin aussi, qui est en dessous de moi. Et donc, je marche le long de ce track et j'essaye de me visualiser. Pendant la performance, je visualise la performance. Je fais ça 2-3 fois en temps réel. Je marche à la vitesse de nage sur la glace. Je me regarde passer à travers les issues de secours. Je m'imagine le froid, la première phase, l'inconfort qui arrive, l'envie de respirer qui arrive petit à petit. Et je me visualise tout ça jusqu'à la fin, la sortie, la validation du protocole devant le juge. Et en fait, ça permet à mon cerveau de se préparer à l'épreuve qui va suivre, et quelque part c'est moins traumatisant du coup après pour le cerveau. Je me suis quelque peu préparé à la performance, quoi.
Vous restez seul ou vous faites des blagues avec vos équipes qui sont quand même pas mal autour de vous?
On essaie de détendre un peu l'atmosphère quand même, voilà, avec les quelques copains, l'équipe qui sont là, l'équipe de tournage aussi évidemment, parce qu'on avait des quelques cadreurs très sympathiques et très amusants qui étaient avec nous, avec qui on blaguait, donc ça c'était quand même assez cool, on détendait l'atmosphère. Donc non, on discute, on essaie de se détendre, mais il y a quand même la tension qui est là, quoi qu'il arrive. Quoi.
On a froid, ouais, ou pas?
Non, là, on n'a pas encore froid. Là, ça va, on est bien habillé, bien emmitouflé. Et après cette première phase de visualisation, en plus de ça, je vais me mettre dans une tente qui est chauffée sur le bord du lac. C'est une tente...
Une tente sauna.
Une tente sauna, exactement. Il y a un poêle à bois à l'intérieur. Alors, on ne chauffe pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus se fatiguer trop. Donc, on va chauffer à 50 degrés à peu près la pièce. Donc, c'est moins chaud qu'un sauna. Un sauna, c'est autour des 90 degrés. Donc, on est quand même moins chaud. Mais là, je vais quand même me charger un peu en chaleur, me préparer. J'emmagasine un peu de chaleur. Voilà, je me prépare. Donc, il n'y a pas grand-chose pour la préparation. C'est un slip de bain, un masque, un bonnet, une montre, voilà, une longe, voilà, une longe avec une ligne de vie. Et là, en gros, j'enfile une grosse parka et ensuite je pars sur une deuxième tente qui, elle, est dressée juste sur la zone de départ, sur le lac. Et dans cette tente-là, je vais faire la dernière partie de la préparation.
C'est quoi le déclic où vous n'êtes plus avec les autres ?
Alors, justement, c'est à ce moment-là, je me mets dans cette petite tente sur le lac, qui est la deuxième tente, hein, vraiment sur le plot de départ. Et là, j'ai un lit de camp qui est monté, et pendant 1 heure, dans cette toute petite tente, je vais réaliser des exercices de respiration, de préparation à l'apnée, qui sont une série d'exercices que j'ai mis au point pendant 10 ans et qui fonctionnent très très bien avant les performances, qui permettent d'échauffer l'apnée en réalité. Et cette série d'exercices de respiration et d'apnée me met dans un état, je dois dire, assez hypnotique. On vient d'en parler, assez second. Et malgré cette préparation, finalement, l'appréhension est quand même encore là, quoi. Donc, ça, c'est très utile, mais ça sert pas à éliminer toutes les barrières, quoi.
Il reste 1 minute, on va plonger, Arthur. C'est là qu'intervient donc ce moment où on choisit d'accepter que ça peut mal
exactement
se passer. Et juste avant de plonger, vous faites ce drôle de bruit qui rythme tout le documentaire. Vous remplissez vos poumons. La technique a l'air super au point. Vous pouvez pouvez nous montrer juste en deux secondes?
En gros, c'est une technique qui est très visuelle, donc on parle souvent de ça, évidemment.
Et auditive. Hein.
Et auditive, oui, qui permet en fait de tasser plus d'air dans les poumons quand on a atteint son maximum, quand on a inspiré à fond, en gros, pour pas rentrer dans les termes techniques. Ensuite, on se sert de la bouche comme d'une pompe pour aller comprimer l'air dans les poumons. Alors, c'est pas très très bon, il vaut mieux éviter. On peut le faire quand on est très entraîné, très souple au niveau thoracique. Donc, je déconseille aux éditeurs d'essayer, vraiment.
Sauf si vous accouchez, vraiment.
Voilà, on peut tomber dans les pommes, on peut se déchirer les intercostaux, la paroi alvéolaire des poumons, etc. Donc, il vaut mieux éviter. Mais en gros, l'idée, c'est de gonfler un maximum d'air. Et une fois qu'on est plein, qu'on peut plus en mettre plus, on se sert de la bouche et...
Voilà.
Et on tasse de l'air dans les poumons.
Un bruit de pompe. Merci Arthur Guérin-Boëri, vous êtes prêt à plonger sous la glace? Pas moi. Il y en a une qui est comme moi ici, qui a une volonté pas dingo quand il s'agit de naser sous de l'eau glacée. Non. C'est l'heure de fraîcheur marine, donc jusqu'ici tout va bien. Aujourd'hui, j'ai testé apprendre un truc feu. Non, pardon, un truc fou. Et ce truc, c'est qu'en ce moment, si t'es une flamme, t'es overbooké. Entre Juliette Armanet, qui nous la déclare en chanson toutes les 5 minutes, la cérémonie des flammes, qui a eu lieu hier au Théâtre du Châtelet, et qui a consacré Aya Nakamura en artiste de l'année, et genre, sans que personne ne s'offusque ou ne parle d'Edith Piaf à aucun moment, comme quoi, c'est possible. Et la flamme olympique, qui a été remise à la France aujourd'hui en Grèce, elles sont débordées, les meufs. Enfin, limite en 2024, si t'es une flamme, t'as pas le droit d'avoir la flemme.
Excellent.
Et c'est tout doux. Et justement, ce matin, je suis tombée sur un article de Slate qui s'intitulait « Le relais de la flamme olympique est une invention nazie ». Et on va pas se mentir, ça m'a interpellée. Hein. J'ai été choquée et déçue. Non, mais en fait, c'est comme si on apprenait qu'en fait, les bisous, ça avait été créé par Vladimir Poutine. Que la pâte à tartiner, c'était une métaphore de l'enfer et que les arcs-en-ciel, c'était l'invention de Dark Vador. Ça déçoit, tu sais. Donc j'ai lu. Et en fait, la première fois qu'il y a eu une flamme olympique, c'était en 1928. Et en organisant les Jeux de 1936, qui devaient avoir lieu à Berlin, il y a un mec qui s'appelait Karl Diem. Et pardon, mais je trouve ça quand même fou d'avoir un nom aussi proche de l'expression carpe diem, si c'est pour donner toutes tes idées aux nazis. Bref, Karl Diem, Karl YOLO, hein, pour les intimes, il s'est dit, tiens, faisons-en un relais dans toute l'Europe, ça pourrait être sympa de prévisiter les petits pays qu'on va envahir dans pas longtemps. Oui, parce qu'on se lance pas comme ça à l'aveugle, hein, c'est toujours important de baliser une rando, il faut être bien éclairé. Donc, Karl YOLO, c'est dur à dire, il en parle à Goebbels, qui était ministre de la propagande, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est l'équivalent du community manager du Troisième Reich, et lui, il trouve l'idée fantastique et il lui dit « Non mais attends Karl, j'adore. Alors attends, je suis méga fan du concept, on allume le feu en mode Johnny au Parc des Princes, c'est génial. Mais pff, est-ce que Hitler va aimer ça ? T'sais quoi, je lui en parle. On n'a qu'une vie. Allez, Karl Diem, comme on dit. Tu l'as, Karl ? Par rapport au fait que ton nom s'appelle, ça ressemble à Carpe Diem. C'est excellent ! Et bim, ils ont créé ce relais avec une flamme. Les athlètes ont fait 3000 km en 12 jours. Ils sont passés par la Yougoslavie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie. Bon. Après, pas sûr que partout où la flamme soit passée, les gens se soient dit « Oh, les nazis, super, super !» J'aimais pas trop leur idée de camp de concentration. Là, en revanche, la flamme olympique, super cette idée. Hein, trop hâte qui s'installe dans la région. Même si, bon, c'est vrai que tu te dis pas forcément qu'un con en short qui court avec une torche va t'annexer l'année d'après. Hein. Bon, après, tu me diras, avec les croix gammées, il y avait un indice, mais allez, on n'est pas là pour juger. Mais quand ils pensent, hein, c'est devenu quand même un truc de zinzin, la flamme olympique. Il y a des tas de gens qui vont la porter. Par exemple, là, j'ai vu des vidéos. Hier, il y a Nico Saliagas qui l'a porté pendant quelques temps, tout de blanc vêtu, hein, en faisant son petit jogging. Et ben, moi, tu m'aurais dit avant ce matin, quel est le point commun entre Nikos et Hitler ? Bon, bah, j'aurais déjà pensé que tu fais des devinettes bizarres, et puis après, j'aurais cherché, mais sans trouver, tu sais, un peu gêné. Ils enferment tous les deux des gens dans un endroit qu'on élimine nos fur... Oui, voilà, oh là la flamme olympique, c'est ce que je voulais dire, évidemment. Bref, donc là, en tout cas, on l'a récupérée, elle va dormir ce soir à l'ambassade, et elle va partir demain pour une croisière de 12 jours. Voilà, la flamme, elle a une meilleure vie que moi, alors que moi, j'ai zéro passé obscur, et que je pars pas en vrille s'il y a un peu d'alcool ou de méthane dans la salle. Alors, sa croisière, elle va la faire sur le bateau, le Belém. Pardon, je reprécise. Elle va la faire sur le bateau à voile, le Belém. Non, pardon, je reprécise. Sur le bateau à voile et en bois, le Belém. Voilà, c'est une flamme, je vous rappelle. Hein. Non, et puis, franchement, une flamme éternelle nazie qui navigue sur un bateau à voile en bois, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, hein? Eh bah, ben, tout, en fait. Hein. Donc, bon, on croise les doigts pour qu'elle arrive en France le 8 mai. Et d'ailleurs, que se passe-t-il, Marie, le 8 mai, à part un barbecue en famille?
Je le sais. C'est la fête de la victoire de 1945.
Bien sûr, ce que tu as regardé sur mon texte.
Mais non,
en
je
tout
le
cas,
savais.
Mais si, c'est, en tout cas, ça, c'est quand? Bah, c'est quand les Alliés, ils ont gagné contre les nazis. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas.
Et on retrouve tous les jours Fraîcheur Marine en podcast sur France Inter, en spectacle le 14 mai au théâtre de la Tour Eiffel pour le Pride Comedy Show que tu présentes, Marine.
Arthur Guérin-Boëri, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous êtes ici pour nous parler du documentaire Sunny Boy Under Ice Beyond Fear, réalisé par Morgan Le Faucheur. On vous y voit battre des records de nage sous la glace. Et c'est magnifique, vraiment. On a plein de petites questions qu'on s'est posées en regardant le documentaire. C'est Allez. Donc
l'interview, nos dernières questions.
Pourquoi les trous creusés dans la glace, ils sont en forme de triangle?
C'est simple, c'est une raison pratique. C'est qu'en gros, quand dans le sens de la marche, j'arrive sur le côté du triangle, la base du triangle, et donc j'ai vu que j'ai plus de chances de risque de sortir en urgence à cet endroit-là. La zone de sortie est plus large, et le fait que ce soit en triangle, ça nous évite énormément de tonnes de glace en plus à sortir que de faire des carrés.
Très bien.
Pourquoi vous gardez votre bonnet de bain?
Parce que la tête, c'est le pire dans l'eau, c'est vraiment le plus horrible, c'est la tête, et au moins ça préserve un peu la tête.
Et alors la dernière question, est-ce que vous avez déjà été saoul avec de l'air?
Ah, il suffit d'hyperventiler quelques secondes et tout le monde se sent saoul avec de l'air.
Tout le monde peut s'enivrer avec de l'air, ce sera la dernière information de cette émission. Merci beaucoup Arthur Guérin-Boëri. Je rappelle que le documentaire Sunny Boy est disponible sur toutes les plateformes de vidéos à la demande et on vous le recommande notamment si vous avez un petit peu l'impression d'étouffer dans votre vie en ce moment. Lundi, on recevra Julie Deliquet pour parler de la pièce de théâtre Welfare. Merci encore Arthur et nous on se dit à lundi.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.